Chapitre 3. De la prospérité de l'Angleterre et des causes qui l'ont accrue jusqu'à présent. Il y avait, en 1813, 21 ans que les Anglais étaient en guerre avec la France, et pendant quelque temps le continent entier s'était armé contre eux. L'Amérique même, par des circonstances politiques étrangères aux intérêts de l'Europe, faisait partie de cette coalition universelle. Depuis plusieurs années, le respectable monarque de la Grande-Bretagne ne possédait plus l'empire de ses facultés intellectuelles. Les grands hommes dans la carrière civile, Pitt et Fox, n'existaient plus, et personne encore n'avait succédé à leur réputation. L'on ne pouvait citer aucun nom historique à la tête des affaires, et le seul Wellington attirait l'attention de l'Europe. Quelques ministres, plusieurs membres de l'opposition, des savants, des hommes de loi, des hommes de lettres jouissaient d'une haute estime. Si d'un côté la France, à force de s'abaisser sous le joug d'un seul, avait vu disparaître les réputations individuelles, de l'autre, il y avait tant de talent, d'instruction et de mérite chez les Anglais qu'il était devenu très difficile de primer au milieu de cette foule illustre. En arrivant en Angleterre, aucun homme en particulier ne s'offrait à ma pensée. Je n'y connaissais presque personne, mais j'y venais avec confiance. J'étais persécuté par un ennemi de la liberté. Je me croyais donc sûr d'une honorable pitié dans un pays dont toutes les institutions étaient en harmonie avec mes sentiments politiques. Je comptais beaucoup aussi sur le souvenir de mon père pour me protéger, et je ne me suis pas trompé. Les vagues de la mer du Nord que je traversais en venant de Suède m'inspirait encore de l'effroi, lorsque j'aperçus de loin l'île verdoyante qui seule avait résisté à l'asservissement de l'Europe. Il n'y avait là cependant que 12 millions d'hommes, car les 5 ou 6 millions de plus qui composent la population de l'Irlande ont souvent été livrés, pendant le cours de la dernière guerre, à des divisions intestines. Ceux qui ne veulent pas reconnaître l'ascendant de la liberté dans la puissance de l'Angleterre ne cesse de répéter que les Anglais auraient été vaincus par Bonaparte, comme toutes les nations continentales, s'ils n'avaient pas été protégés par la mer. Cette opinion ne peut être réfutée par l'expérience, mais je n'en doute point. Si par un coup du Léviathan la Grande-Bretagne se fût trouvée réunie au continent européen, sans doute elle eût plus souffert, sans doute ses richesses seraient diminuées. Mais l'esprit public d'une nation libre est tel que jamais elle n'eût subi le joug des étrangers. Lorsque je débarquai en Angleterre au mois de juin 1813, on venait d'apprendre l'armistice, conclu entre les puissances alliées et Napoléon. Il était à Dresde, et maître encore alors de se réduire au misérable sort d'empereur de la France jusqu'au Rhin, et de roi d'Italie. L'Angleterre probablement n'aurait point souscrit à ce traité. Sa position était donc loin d'être favorable. Une longue guerre la menaçait de nouveau. Ses finances paraissaient épuisées, à juger du moins de ses ressources, d'après celles de tout autre pays de la terre. Un papier, tenant lieu de monnaie, était tombé d'un quart sur le continent, et si ce papier n'eût pas été soutenu par l'esprit patriotique de la nation, il eût entraîné le bouleversement des affaires publiques et particulières. Les journaux de France, en comparant l'état des finances des deux pays, représentait toujours l'Angleterre comme abîmée de dettes, et la France comme maîtresse d'un trésor considérable. Ce rapprochement était vrai, mais il fallait y ajouter que l'Angleterre disposait, par le crédit, de moyens sans bornes, tandis que le gouvernement français ne possédait que l'or qu'il tenait entre ses mains. La France pouvait lever des milliards de contributions sur l'Europe opprimée, mais son souverain despotique n'aurait pu réussir dans un emprunt volontaire. De Harwich à Londres, on parcourt un grand chemin d'environ 70 000, qui est bordée presque sans intervalle par des maisons de campagne à droite et à gauche. C'est une suite d'habitations avec des jardins, interrompus par des villes. Presque tous les hommes sont bien vêtus, presque aucune cabane n'est en décadence. Les animaux eux-mêmes ont quelque chose de paisible et de prospère, comme s'il y avait des droits aussi pour eux dans ce grand édifice de l'ordre social. Les prix de toutes choses sont nécessairement fort élevés, mais ces prix sont fixes pour la plupart. Il y a tant d'aversion pour l'arbitraire dans ce pays qu'en dehors de la loi même, on place la règle et puis l'usage pour s'assurer autant qu'on le peut dans les moindres détails quelque chose de positif et de stable. C'était sans doute un grand inconvénient que la cherté des denrées produites par les impôts excessifs. Mais si la guerre était indispensable, quelle autre que cette nation, c'est-à-dire que cette constitution, pouvait y suffire? Montesquieu remarque avec raison que les pays libres payent beaucoup plus d'impôts que les pays gouvernés despotiquement. C'est qu'on ne sait pas encore, quoique l'exemple de l'Angleterre ait dû l'apprendre, toutes les richesses d'un peuple qui consent à ce qu'il donne et considère les affaires publiques comme les siennes. Aussi le peuple anglais, loin d'avoir perdu par 20 ans de guerre, avait-il gagné sous tous les rapports, au milieu même du blocus continental. L'industrie, devenue plus active et plus ingénieuse, suppléait d'une manière étonnante aux produits qu'on ne pouvait plus tirer du continent. Les capitaux exclus du commerce avaient été employés au défrichement et aux améliorations de l'agriculture dans plusieurs provinces. Le nombre des maisons s'était augmenté partout, et l'accroissement de Londres depuis peu d'années est à peine croyable. Une branche de commerce tombait-elle, une autre se relevait aussitôt. Les propriétaires, devenus plus riches par la hausse des terres, consacraient une grande portion de leurs revenus à des établissements de charité publique. Lorsque l'empereur Alexandre est arrivé en Angleterre, entouré par la multitude à laquelle il inspirait un si juste empressement, il demandait où était le peuple, parce qu'il ne voyait autour de lui que des hommes vêtus comme la classe aisée l'est ailleurs. Tout ce qui se fait en Angleterre par des souscriptions particulières est énorme. Des hôpitaux, des maisons d'éducation, des missions, des sociétés chrétiennes ont été non seulement soutenues, mais multipliées pendant la guerre. Et les étrangers qui en éprouvaient les désastres, les Suisses, les Allemands, les Hollandais, n'ont cessé de recevoir de l'Angleterre des secours particuliers, produits par des dons volontaires. Lorsque la ville de Leyde fut presque à demi renversée par l'explosion d'un bateau chargé de poudre, on vit paraître peu de temps après le pavillon anglais sur la côte de Hollande. Et comme le blocus continental existait alors dans toute sa rigueur, les habitants de la côte se crurent obligés de tirer sur ce vaisseau perfide. Il arbora le signe de parlementaire et fit savoir qu'il apportait une somme d'argent considérable pour les citoyens de Leyde, ruinés par leur récent malheur. Mais tous ces miracles de la prospérité généreuse, à quoi faut-il les attribuer? À la liberté, c'est-à-dire à la confiance de la nation dans un gouvernement qui fait de la publicité le premier principe des finances, dans un gouvernement éclairé par la discussion et par la liberté de la presse. La nation, qui ne peut être trompée sous un tel ordre de choses, sait l'usage des impôts qu'elle paye, et le crédit public soutient l'incroyable poids de la dette anglaise. Si, sans s'écarter des proportions, on essayait quelque chose de semblable dans les États non représentatifs du continent européen, on ne pourrait aller au second pas d'une telle entreprise. 500 000 propriétaires de fonds publics sont une grande garantie du paiement de la dette, dans un pays où l'opinion et l'intérêt de chaque homme ont de l'influence. La justice, qui est synonyme de l'habileté en matière de crédit, est portée si loin en Angleterre qu'on n'a pas confisqué les rentes des Français pendant qu'ils s'emparaient de tous les biens des Anglais en France. On n'a pas même fait supporter aux étrangers l'impôt sur le revenu de la dette, payé par les Anglais eux-mêmes. Cette bonne foi parfaite, le sublime du calcul, est la base des finances d'Angleterre, et la confiance dans la durée de cette bonne foi tient aux institutions politiques. Le changement des ministres, quel qu'il soit, ne peut porter aucune atteinte au crédit, puisque la représentation nationale et la publicité rendent toute dissimulation impossible. Les capitalistes qui prêtent leur argent sont les hommes du monde qu'il est le plus difficile de tromper. Il existe encore de vieilles lois en Angleterre qui mettent quelques entraves aux diverses entreprises de l'industrie dans l'intérieur, mais on les abolit par degrés, et d'autres sont tombées en désuétude. Aussi chacun se crée-t-il des ressources, et nul homme doué de quelque activité ne peut-il être en Angleterre sans trouver le moyen de s'enrichir en contribuant au bien de l'État. Le gouvernement ne se mêle jamais de ce que les particuliers peuvent faire aussi bien que lui. Le respect pour la liberté individuelle s'étend à l'exercice des facultés de chacun. Et la nation est si jalouse de s'administrer elle-même, quand cela se peut, qu'à beaucoup d'égards, on manque à Londres de la police nécessaire à l'agrément de la ville, parce que les ministres ne peuvent pas empiéter sur les autorités locales. La sécurité politique, sans laquelle il ne peut y avoir ni crédit ni capitaux accumulés, ne suffit pas encore pour développer toutes les ressources d'une nation. Il faut que l'émulation anime les hommes au travail, tandis que les lois leur en assurent le fruit. Il faut que le commerce et l'industrie soient honorés, non par des récompenses données à tel ou tel individu, ce qui suppose deux classes dans un pays, dont l'une se croit le droit de payer l'autre, mais par un ordre de choses qui permet à chaque homme de s'élever au plus haut rang s'il le mérite. Hume dit que le commerce a encore plus besoin de dignité que de liberté. En effet, l'absurde préjugé qui interdisait aux nobles de France d'entrer dans le commerce nuisait plus que tous les autres abus de l'ancien régime au progrès des richesses françaises. Il y a des pairies en Angleterre accordées nouvellement à des négociants de première classe. Une fois pairs, ils ne restent pas dans le commerce parce qu'ils sont censés devoir servir autrement la patrie. Mais ce sont leurs fonctions de magistrats et non des préjugés de caste qui les éloignent de l'état de négociant, dans lequel les fils cadets des plus grands seigneurs entrent sans hésiter quand les circonstances les y appellent. La même famille tient souvent à des pairs d'une part et de l'autre aux plus simples marchands de telle ou telle ville de province. Cet ordre politique encourage toutes les facultés de chacun, parce qu'il n'y a point de bornes aux avantages que la richesse et le talent peuvent valoir, et qu'aucune exclusion n'interdit ni les alliances, ni les emplois, ni la société, ni les titres, au dernier des citoyens anglais, s'il est digne d'être le premier. Mais, dira-t-on, en France, même sous l'Ancien Régime, on a nommé des individus sans naissance aux plus grandes places. Oui, on s'est servi d'eux quelquefois, quand ils étaient utiles à l'État. Mais dans aucun cas, on ne pouvait faire d'un bourgeois l'égal d'un gentilhomme. Comment donner des décorations de premier ordre à un homme de talent sans naissance, puisqu'il fallait des preuves généalogiques pour avoir le droit de les porter? A-t-on vu faire un duc et pair de ce qu'on aurait appelé un parvenu? Et ce mot de parvenu, à lui seul, n'est-il pas une offense? Les membres des parlements français eux-mêmes, nous l'avons déjà dit, n'ont jamais pu se faire considérer comme les égaux de la noblesse d'épée. En Angleterre, les rangs et l'égalité sont combinés de la manière la plus favorable à la prospérité de l'État et le bonheur de la nation est le but de toutes les distinctions sociales. Là, comme ailleurs, les noms historiques inspirent le respect que l'imagination reconnaissante ne saurait leur refuser. Mais les titres restant les mêmes, tout en passant d'une famille à l'autre, il en résulte dans l'esprit du peuple une ignorance salutaire qui lui fait accorder les mêmes égards au même titre, quel que soit le nom patronymique auquel ils sont attachés. Le grand Marlborough s'appelait Churchill et n'était sûrement pas d'une aussi noble origine que l'antique maison de Spencer, dont est le duc de Marlborough actuel, mais sans parler de la mémoire d'un grand homme, qui aurait suffi pour honorer ses descendants. Les gens du monde savent seuls que le duc de Marlborough de nos jours est d'une beaucoup plus grande naissance que le fameux général, et sa considération dans la masse de la nation ne gagne ni ne perd rien à cela. Le duc de Northumberland, au contraire, ne descend que par les femmes du célèbre Percy Hotspur, et cependant, tout le monde le considère comme le véritable héritier de cette maison. On se récrie sur la régularité du cérémonial en Angleterre. L'ancienneté d'un jour, en fait de nomination à la pairie, donne le pas sur un père nommé quelques heures plus tard. La femme et la fille participent aux avantages de leur époux et de leur père. Mais c'est précisément cette régularité de rang qui écarte les peines de la vanité. Car il se peut que le père, le plus moderne, soit meilleur gentilhomme que celui qui le précède. Il peut le croire, du moins. Et chacun se fait sa part d'amour-propre sans que le bien public en souffre. La noblesse de France, au contraire, ne pouvait être classée que par le généalogiste de la cour. Ses décisions, fondées sur des parchemins, étaient sans appel. Et tandis que l'aristocratie anglaise est l'espoir de tous, puisque tout le monde y peut parvenir, l'aristocratie française en était nécessairement le désespoir, car on ne pouvait se donner, par les efforts de toute sa vie, ce que le hasard ne vous avait pas accordé. Ce n'est pas l'ordre inglorieux de la naissance, disait un poète anglais à Guillaume III, qui vous a élevé au trône, mais le génie et la vertu. En Angleterre, on a fait servir le respect des ancêtres à former une classe qui donne le moyen de flatter les hommes de talent en les y associant. En effet, on ne saurait trop le répéter, qu'y a-t-il de plus insensé que d'arranger l'association politique de manière qu'un homme célèbre ait à regretter de n'être pas son petit-fils. Car, une fois anobli, ses descendants, à la troisième génération, obtenaient par son mérite des privilèges qu'on ne pouvait lui accorder à lui-même. Aussi s'empressait-on, en France, de quitter le commerce, et même le barreau, dès qu'on avait assez d'argent pour se faire anoblir. De là venait que toute autre carrière que celle des armes n'était jamais portée aussi loin qu'elle pouvait l'être, et qu'on a pu savoir jusqu'où s'élèverait la prospérité de la France si elle jouissait en paix des avantages d'une constitution libre. Toutes les classes d'hommes bien élevés se réunissent souvent en Angleterre dans les comités divers où l'on s'occupe de telle ou telle entreprise, de tel ou tel acte de charité, soutenu volontairement par les souscriptions des particuliers. La publicité dans les affaires est un principe si généralement admis que bien que les Anglais soient par nature les hommes les plus réservés et ceux qui ont le plus de répugnance à parler en société, il y a presque toujours, dans les salles où les comités se rassemblent, des places pour les spectateurs et une estrade d'où les orateurs s'adressent à l'assemblée. J'assistais à l'une de ces discussions dans laquelle on présentait avec force les motifs faits pour exciter la générosité des auditeurs. Il s'agissait d'envoyer des secours aux habitants de Leipzig, après la bataille donnée sous leurs murs. Le premier qui parla fut le duc d'York, le second fils du roi, la première personne du royaume après le prince régent, homme très habile et très estimé dans la direction de son ministère, mais qui n'a ni l'habitude ni le goût de se faire entendre en public. Il triompha cependant de sa timidité naturelle parce qu'il croyait ainsi donner un encouragement utile. Les courtisans des monarchies absolues n'auraient pas manqué de dire à un fils de roi d'abord qu'il ne devait rien faire qui lui coûtât de la peine et secondement qu'il aurait tort de se commettre en haranguant le public au milieu des marchands, ses collègues à la tribune. Cette pensée ne vint pas seulement au duc d'York, ni à aucun Anglais, de quelque opinion qu'il fût. Après le duc d'York, le duc de Sussex, le cinquième fils du roi, qui s'exprime avec beaucoup d'élégance et de facilité, parla aussi à son tour. Et l'homme le plus aimé et le plus considéré de toute l'Angleterre, M. Wilberforce, put à peine se faire entendre, tant les applaudissements couvraient sa voix. Des hommes obscurs, et sans autre rang dans la société que leur fortune ou leur dévouement à l'humanité, succédèrent à ces noms illustres. Chacun, suivant ses moyens, fit sentir l'honorable nécessité où se trouvait l'Angleterre de secourir ceux de ses alliés qui avaient plus souffert qu'elle dans la lutte commune. Les auditeurs souscrivirent en sortant, et des sommes considérables furent le résultat de cette séance. C'est ainsi que se forment les liens qui fortifient l'unité de la nation, et c'est ainsi que l'ordre social se fonde sur la raison et l'humanité. Ces respectables assemblées n'ont pas uniquement pour but d'encourager les œuvres de bienfaisance. Il en est qui servent surtout à consolider l'union entre les grands seigneurs et les commerçants, entre la nation et le gouvernement, et celles-là sont les plus solennelles. La ville de Londres a eu de tout temps un lord maire, qui, pendant une année, préside le conseil de la cité, et dont les pouvoirs administratifs sont très étendus. On se garde bien en Angleterre de tout concentrer dans l'autorité ministérielle. Et l'on veut que, dans chaque province, dans chaque ville, les intérêts de localité soient remis entre les mains d'hommes choisis par le peuple pour les diriger. Le lord maire est ordinairement un négociant de la cité, et non pas un négociant en grand, mais souvent un simple marchand dans lequel un très grand nombre d'individus peuvent voir leur pareil. Lady Mayoress, c'est ainsi qu'on appelle la femme du maire, jouit pendant un an de tous les honneurs dus aux rangs les plus distingués de l'État. On honore l'élection du peuple et la puissance d'une grande ville dans l'homme qui la représente. Le lord maire donne deux dîners de représentation où il invite des Anglais de toutes les classes et des étrangers. J'ai vu à sa table des fils du roi, plusieurs ministres, les ambassadeurs des puissances étrangères, le marquis de Lansdowne, le duc de Devonshire, ainsi que des citoyens très recommandables par des raisons diverses, les uns fils de pairs, les autres députés, les autres négociants, jurisconsultes, hommes de lettres, tous citoyens anglais, tous également attachés à leur noble patrie. Deux ministres du roi se levèrent de table pour parler en public, et tandis que sur le continent un ministre se renferme, même au milieu d'une société de choix, dans les phrases les plus insignifiantes, les chefs du gouvernement en Angleterre se considèrent toujours comme représentants du peuple et cherchent à captiver son suffrage tout aussi soigneusement que les membres de l'opposition. Car la dignité de la nation anglaise plane au-dessus de tous les emplois et de tous les titres. On porta, suivant la coutume, divers toasts dont les intérêts politiques étaient l'objet. Les souverains et les peuples, la gloire et l'indépendance, furent célébrés. Et là, du moins, les Anglais se montrèrent amis de la liberté du monde. En effet, une nation libre peut être exclusive dans ses avantages de commerce ou de puissance, mais elle devrait s'associer partout aux droits de l'espèce humaine. Cette réunion avait lieu dans un vieux bâtiment de la cité, dont les voûtes gothiques ont été les témoins des luttes les plus sanglantes. Le calme n'a régné en Angleterre qu'avec la liberté. Les costumes de tous les membres du conseil de la cité sont les mêmes qu'il y a plusieurs siècles. On conserve aussi quelques usages de cette époque, et l'imagination en est émue. Mais c'est parce que les anciens souvenirs ne retracent point d'odieux préjugés. Ce que l'Angleterre a de gothique dans ses habitudes, et même dans quelques-unes de ses institutions, semble une cérémonie du culte du temps. Mais ni les progrès des Lumières, ni le perfectionnement des lois n'en souffrent en aucune manière. Nous ne croyons pas que la Providence ait placé ce beau monument de l'ordre social si près de la France, seulement pour nous inspirer le regret de ne pouvoir jamais l'égaler. Et nous examinerons avec scrupule ce que nous voudrions imiter avec énergie. Chapitre 4. De la liberté et de l'esprit public chez les Anglais. La première base de toute liberté, c'est la garantie individuelle. Et rien n'est plus beau que la législation anglaise à cet égard. Un procès criminel est par tout pays un horrible spectacle. En Angleterre, l'excellence de la procédure, l'humanité des juges, les précautions de tout genre prises pour assurer la vie à l'innocent et les moyens de défense aux coupables mêlent un sentiment d'admiration à l'angoisse d'un tel débat. « Comment voulez-vous être jugé ?» dit l'officier du tribunal à l'accusé. « Par Dieu et mon pays, » répond-il. « Dieu vous donne une bonne délivrance, » reprend l'officier du tribunal. Dès l'ouverture des débats, si l'accusé se trouble, s'il se compromet par ses réponses, le juge le met sur la bonne voie et ne tient pas registre des paroles inconsidérées qui pourraient lui échapper. Dans la suite du procès, il ne s'adresse jamais à l'accusé de peur que l'émotion que celui-ci doit éprouver ne l'expose à se nuire lui-même. On n'admet jamais, comme cela se fait en France, des témoins indirects, c'est-à-dire qui déposent par oui-dire. Enfin, toutes les précautions ont pour but l'intérêt de l'accusé. La religion et la liberté président à l'acte imposant qui permet à l'homme de condamner à mort son semblable. L'admirable institution du jury, qui remonte en Angleterre à une haute antiquité, fait intervenir l'équité dans la justice. Ceux qui sont investis momentanément du droit d'envoyer le coupable à la mort ont une sympathie naturelle avec les habitudes de sa vie, puisqu'ils sont d'ordinaire choisis dans une classe à peu près semblable à la sienne. Et lorsque les jurés sont forcés de prononcer la sentence d'un criminel, il est du moins certain lui-même que la société a tout fait pour qu'il pût être absous s'il le méritait. Et cette conviction doit porter quelque calme dans son cœur. Depuis 100 ans, il n'existe peut-être pas d'exemple en Angleterre d'un homme condamné dont l'innocence ait été reconnue trop tard. Les citoyens d'un État libre ont une si grande portion de bon sens et de conscience qu'avec ces deux flambeaux, ils ne s'égarent jamais. On sait quel bruit ont fait en France la sentence portée contre Calas, celle contre Lally, et peu de temps avant la Révolution, le président Dupaty publia le plaidoyer le plus énergique en faveur de 3 accusés qu'on avait condamnés au supplice de la roue et dont l'innocence fut prouvée après leur mort. De semblables malheurs ne sauraient avoir lieu d'après les lois et les procédures criminelles d'Angleterre. Et le tribunal d'appel de l'opinion, la liberté de la presse, ferait connaître la moindre erreur à cet égard, s'il était possible qu'il en fût commis. Au reste, les délits qui ne tiennent en aucune manière à la politique ne sont point ceux pour lesquels on peut craindre l'application de l'arbitraire. En général, il importe peu aux puissants de ce monde que les voleurs et les assassins soient jugés suivant telle ou telle forme, et personne n'a intérêt à souhaiter que les lois ne soient pas respectées dans de tels jugements. Mais quand il s'agit des crimes politiques, de ceux que les partis opposés se reprochent mutuellement avec tant d'amertume et de haine, c'est alors qu'on a vu en France tous les genres de tribunaux extraordinaires, créés par la circonstance, destinés à tel homme et justifiés, disait-on, par la grandeur du délit. Tandis que c'est précisément quand ce délit est de nature à exciter fortement les passions que l'on a plus besoin de recourir, pour le juger, à l'impassibilité de la justice. Les Anglais avaient été tourmentés comme les Français, comme tous les peuples de l'Europe où l'empire de la loi n'est pas établi, par la chambre étoilée, par des commissions extraordinaires, par l'extension du crime de haute trahison à tout ce qui déplaisait aux possesseurs du pouvoir. Mais depuis que la liberté s'est consolidée en Angleterre, non seulement un individu accusé d'un crime d'État n'a jamais à craindre d'être détourné de ses juges naturels, qui pourrait admettre une telle pensée ? Mais la loi lui donne plus de moyens de défense qu'à tout autre, parce qu'il a plus d'ennemis. une circonstance récente fera sentir la beauté de ce respect des Anglais pour la justice, l'un des traits les plus admirables de leur admirable gouvernement. On a attenté 3 fois pendant son règne à la vie du roi d'Angleterre, et certes, elle était très chère à ses sujets. La vénération qu'il inspire, dans son état actuel de maladie, a quelque chose de touchant et de délicat, dont on n'aurait jamais pu croire capable une nation tout entière. Et cependant, aucun des assassins qui ont voulu tuer le roi n'a été condamné à mort. On a trouvé chez eux des symptômes de folie qu'on avait recherchés avec d'autant plus de scrupule que l'indignation publique contre eux était plus violente. Louis XV fut frappé par Damien vers le milieu du siècle dernier, et l'on prétend aussi que ce misérable avait l'esprit égaré. Mais, en supposant même qu'il eût assez de raisons pour mériter la mort, une nation civilisée peut-elle tolérer le supplice effroyable auquel il a été condamné? Et l'on dit que ce supplice eut des témoins curieux et volontaires. Quel contraste entre une telle barbarie et ce qui s'est passé en Angleterre! Mais gardons-nous d'en tirer aucune conséquence contre le caractère français. Ce sont les gouvernements arbitraires qui dépravent les nations, et non les nations qui sont destinées par le ciel, les unes à toutes les vertus, les autres à tous les forfaits. Hatfield est le nom du 3e des insensés qui tentèrent d'assassiner le roi d'Angleterre. Il choisit le jour où le roi paraissait au spectacle après une assez longue maladie, accompagné de la reine et des princes de sa famille. Au moment de l'entrée du roi dans la salle, on entendit un coup de pistolet dirigé contre sa loge. Et, comme il recula de quelques pas, on douta un instant si le meurtre était accompli. Mais, quand le courageux monarque s'avança pour rassurer la foule des spectateurs, dont l'inquiétude était au comble, rien ne peut exprimer le transport qui s'empara d'eux. Les musiciens, par un mouvement spontané, jouèrent l'air consacré « Dieu sauve le roi ». Et cette prière produisit, au milieu de l'anxiété publique, une émotion dont le souvenir vit encore au fond des cœurs. À la suite de cette scène, une multitude étrangère aux vertus de la liberté aurait demandé à grands cris le supplice de l'assassin. Et l'on aurait vu les courtisans se montrer peuple dans leur fureur, comme si l'excès de leur amour ne les eût plus laissés maîtres d'eux-mêmes. Rien de semblable ne pouvait avoir lieu dans un pays libre. Le roi magistrat était le protecteur de son assassin par le sentiment de la justice. Et nul Anglais n'avait l'idée qu'on pût plaire à son souverain aux dépens de l'immuable loi qui représente la volonté de Dieu sur la terre. Non seulement le cours de la justice ne fut pas hâté d'une heure, mais l'on va voir, par l'exorde du plaidoyer de M. Erskine, aujourd'hui Lord Erskine, quelles sont les précautions qu'on prend en faveur d'un criminel d'État. Ajoutez-y que, dans les procès pour haute trahison, le défenseur de l'accusé a le droit de prononcer un plaidoyer. Dans les cas ordinaires de félonie, il ne peut qu'interroger les témoins et rendre le jury attentif à leurs réponses. Et quel défenseur que celui qu'on accordait à Hatfield, l'avocat le plus éloquent de l'Angleterre, le plus ingénieux dans l'art de la plaidoirie, Erskine. C'est ainsi que commence son discours. Je ne saurais trop recommander au lecteur français le recueil des plaidoyers de M. Erskine, qui a été nommé chancelier d'Angleterre, après une longue illustration dans le barreau. Descendant d'une des plus grandes maisons d'Écosse, il avait d'abord été officier, puis, manquant de fortune, il entra dans la carrière de la loi. Les circonstances particulières auxquelles les plaidoyers de Lord Erskine se rapportent ne sont, pour ainsi dire, que des occasions de développer, avec une force et une sagacité sans pareille, les principes de la jurisprudence criminelle qui devraient servir de modèle à tous les peuples. Guillemets. Messieurs les jurés, l'objet qui nous occupe et le devoir que je vais remplir, non pas seulement par l'autorisation de la Cour, mais en vertu du choix spécial qu'elle a fait de moi, offre au monde civilisé un monument éternel de notre justice nationale. Le fait qui est soumis à votre examen, et dont toutes les circonstances vous sont déjà connues par la procédure, place notre pays, son gouvernement, ses citoyens et ses lois, au plus haut point d'élévation morale où l'ordre social puisse atteindre. Le 15 du mois de mai dernier, un coup de pistolet a été tiré contre le roi, dans la 40e année d'un règne pendant lequel il n'a pas seulement joui du pouvoir souverain, mais exercé sur le cœur de son peuple un empire spontanément accordé. Du moins, toutes les apparences indiquent que le coup était dirigé contre Sa Majesté, et cela dans un théâtre public, au centre de sa capitale, au milieu des applaudissements sincères de ses fidèles sujets. Toutefois, pas un des cheveux de la tête de l'assassin présumé n'a été touché. Et le roi lui-même, qui jouait le premier rôle dans cette scène, soit par son rang, soit parce que ses intérêts et ses sentiments personnels étaient les plus compromis, a donné un exemple de calme et de modération non moins heureux que remarquable. Messieurs, je conviens avec l'avocat général, et en effet il ne saurait y avoir deux opinions à cet égard, que, si le même coup de pistolet eût été tiré méchamment par le même homme contre le dernier des hommes alors présents dans la salle, le prisonnier que voici eût été mis en jugement sans aucun délai et conduit immédiatement au supplice s'il eût été trouvé coupable. Il n'aurait eu connaissance des preuves à sa charge qu'au moment de la lecture de son acte d'accusation. Il eût ignoré les noms et jusqu'à l'existence de ceux qui devaient prononcer son arrêt et des témoins appelés à déposer contre lui. Mais il s'agit d'une tentative de meurtre sur la personne du roi lui-même. Et voici mon client tout couvert de l'armure de la loi. Ce sont les juges institués par le roi qui l'ont pourvu d'un défenseur, non de leur choix, mais du sien. Il a eu copie de son acte d'accusation 10 jours avant le commencement de la procédure. Il a connu les noms, demeures et qualités de tous les jurés présentés à la cour. Il a joui du privilège important de les récuser péremptoirement sans motiver son refus. Il a eu de même la connaissance détaillée de tous les témoins admis à déposer contre lui. Enfin, il faut aujourd'hui, pour le condamner, un témoignage double de celui qui suffirait légalement pour établir son crime, si, dans une poursuite semblable, le plaignant était un homme du dernier rang de la société. Messieurs, lorsque cette malheureuse catastrophe arriva, je me souviens d'avoir dit à quelques personnes, ici présentes, qu'il était difficile, au premier coup d'œil, de remonter au principe qui a dicté ces exceptions indulgentes aux règles générales de la procédure, et de s'expliquer pourquoi nos ancêtres ont étendu aux conspirations contre la personne du roi les précautions qui concernent les trahisons contre le gouvernement. En effet, dans les cas de trahison politique, les intérêts et les passions de grandes masses d'hommes en puissance se trouvant compromis et agités, il devient nécessaire d'établir un contrepoids pour donner du calme et de l'impartialité aux tribunaux criminels. Mais une tentative d'homicide contre la personne du roi, sans aucune connexion avec les affaires publiques, semblait devoir être assimilée à tout autre crime du même genre, commis contre un simple particulier. Mais, messieurs, la sagesse de la loi est plus grande que celle d'un homme quel qu'il soit. Combien donc n'est-elle pas au-dessus de la mienne ? Une tentative contre la personne du roi est considérée comme un parricide envers l'État. Les jurés, les témoins, les juges eux-mêmes sont ses enfants. Il fallait donc qu'un délai solennel précédât le jugement pour qu'il pût être équitable. Et quel spectacle plus sublime la justice peut-elle nous offrir que celui d'une nation tout entière déclarée récusable pendant une période limitée? Une 40aine de 15 jours n'était-elle pas nécessaire pour garantir les esprits de la contagion d'une partialité si naturelle? Fin des guillemets. Quel pays que celui où de telles paroles ne sont que l'exposition simple et vraie de ce qui existe? La jurisprudence civile anglaise est beaucoup moins digne de louange. Les procès y sont trop dispendieux et trop prolongés. Elle sera sûrement améliorée avec le temps, comme elle l'a déjà été sous plusieurs rapports, car ce qui caractérise surtout le gouvernement anglais, c'est la possibilité de se perfectionner sans secousse. Il reste en Angleterre des formes anciennes, remontant au temps féodal, qui surcharge les lois civiles d'une foule de longueurs inutiles. Mais la Constitution s'est établie en greffant le nouveau sur l'ancien. Et s'il en est résulté le maintien de quelques abus, on peut dire aussi que, de cette manière, l'on a donné à la liberté l'avantage de tenir à une ancienne origine. La condescendance pour les vieux usages ne s'étend en Angleterre à rien de ce qui concerne la sûreté et la liberté individuelle. Sous ce rapport, l'ascendant de la raison est complet, et c'est sur cette base que tout repose. Avant de passer à la considération des pouvoirs politiques, sans lesquels les droits civils n'auraient aucune garantie, il faut encore parler de la seule atteinte portée à la liberté individuelle qu'on puisse reprocher en Angleterre, la presse des matelots. Je n'alléguerai point les motifs tirés du grand intérêt que doit avoir un pays, dont toute la puissance est maritime, à se maintenir à cet égard dans sa force. Je ne dirai point non plus que cette espèce de violence se borne à ceux qui ont déjà servi dans la marine marchande ou royale, et qui savent, par conséquent, comme les soldats sur terre, le genre d'obligations auxquelles ils sont astreints. J'aime mieux convenir franchement que c'est un grand abus, mais un abus qui, sans aucun doute, sera réformé de quelque manière. Car dans un pays où toutes les pensées sont tournées vers le perfectionnement de l'ordre social, et où la liberté de la presse favorise le développement de l'esprit public, il est impossible que toutes les vérités ne finissent pas par rentrer efficacement en circulation. On peut prédire qu'à une époque plus ou moins éloignée, on verra des changements importants dans le mode de recrutement de la marine en Angleterre. Eh bien, s'écrieront les ennemis de toute vertu publique, quand les éloges que l'on fait de l'Angleterre seraient fondés, il en résulterait seulement que c'est un pays habilement et sagement gouverné, comme tout autre pays pourrait l'être. Mais il n'est point libre à la manière dont les philosophes l'entendent, car c'est le ministère qui est le maître de tout, là comme ailleurs. Il achète les voix du Parlement de manière à s'assurer constamment la majorité, et toute cette constitution anglaise dont on nous parle avec admiration n'est que l'art de faire agir la vénalité politique. L'espèce humaine serait bien à plaindre si le monde était ainsi dépouillé de toutes ses beautés morales. Il serait difficile alors de comprendre les vues de la divinité dans la création de l'homme. Mais heureusement, ces assertions sont combattues par les faits, autant que par la théorie. Il est inconcevable combien l'Angleterre est mal connue sur le continent, malgré le peu de distance qui l'en sépare. L'esprit de parti repousse les lumières qui viendraient de ce phare immortel. Et l'on ne veut voir dans l'Angleterre que son influence diplomatique, ce qui n'est pas, comme je le dirai dans la suite, le beau côté de ce pays. Est-ce en effet de bonne foi qu'on peut se persuader que les ministres anglais donnent de l'argent aux députés des communes ou aux membres de la Chambre haute pour voter dans le sens du gouvernement? Comment les ministres anglais, qui rendent un compte si exact des deniers de l'État, trouveraient-ils des sommes assez fortes pour corrompre des hommes d'une aussi grande fortune, sans parler même de leur caractère? M. Pitt vint s'en remettre, il y a quelques années, à l'indulgence de la Chambre pour 40 000 livres sterling qu'il avait employées à soutenir des maisons de commerce pendant la dernière guerre. Et ce qu'on appelle les dépenses secrètes ne suffirait pas à la moindre influence politique dans l'intérieur du pays. Et de plus, comment la liberté de la presse, dont le flambeau porte le jour sur le moindre détail de la vie des hommes publics, ne ferait-elle pas connaître les présents corrupteurs qui perdraient à jamais ceux qui les auraient reçus, aussi bien que les ministres qui les auraient donnés? Il existait, j'en conviens, sous les prédécesseurs de M. Pitt, quelques exemples de marchés conclus pour l'État, de manière à favoriser indirectement des députés. Mais M. Pitt s'est tout à fait abstenu de ces moyens indignes de lui. Il a établi la libre concurrence pour les emprunts et les fournitures, et aucun homme, cependant, n'a exercé plus d'empire sur les deux chambres. Soit, dira-t-on, les députés et les pairs ne sont point achetés par de l'argent, mais ils veulent avoir des places pour eux et pour leurs amis. Et ce genre de séduction est aussi efficace que l'autre. Sans doute, c'est une partie de la prérogative du roi, et par conséquent de la Constitution, que les faveurs dont la couronne peut disposer. Cette influence est un des points de la balance si sagement combinée, et d'ailleurs, elle est encore très limitée. Jamais le ministère n'aurait ni le moyen ni l'idée de changer rien à ce qui touche aux libertés constitutionnelles de l'Angleterre. L'opinion à cet égard lui présente une barrière invincible. La pudeur publique consacre de certaines vérités comme inattaquables, et le parti de l'opposition n'imaginerait pas plus de critiquer l'institution de la pairie que le parti ministériel n'oserait blâmer la liberté de la presse. C'est uniquement dans le cercle des circonstances du moment que de certaines considérations personnelles ou de famille peuvent agir sur la direction de quelques esprits, mais jamais de manière à porter atteinte aux lois constitutionnelles. Quand le roi voudrait s'en affranchir, la responsabilité des ministres ne leur permettrait pas de s'y prêter. Et ceux qui composent la majorité dans les deux chambres seraient encore moins disposés à renoncer à leurs droits réels de lord, de député et de citoyen pour mériter les faveurs d'une cour. La fidélité de parti est l'une des vertus fondées sur l'esprit public, dont il résulte le plus d'avantages pour la liberté anglaise. Si demain les ministres avec lesquels on a voté sortent de place, ceux auxquels ils ont donné des emplois les quittent avec eux, un homme serait déshonoré en Angleterre s'il se séparait de ses amis politiques pour son intérêt particulier. L'opinion à cet égard est si forte qu'on a vu, il n'y a pas longtemps, un homme d'un caractère et d'un nom très respectable se brûler la cervelle parce qu'il se reprochait d'avoir accepté une place, indépendamment de son parti. Jamais on n'entend la même bouche proférer deux opinions opposées. Et cependant, il ne s'agit dans l'état actuel des choses, en Angleterre, que de nuances et non de couleurs. Les Tories, a-t-on dit, approuvent la liberté et aiment la monarchie, tandis que les Whigs approuvent la monarchie et aiment la liberté. Mais entre ces deux partis, il ne saurait être question de la République ou de la royauté, de la dynastie ancienne ou nouvelle, de la liberté ou de la servitude. Enfin, des extrêmes et des contrastes qu'on a vus professer par les mêmes hommes en France, comme si l'on devait dire du pouvoir ainsi que de l'amour que l'objet n'importe pas, pourvu que l'on soit toujours fidèle au sentiment, c'est-à-dire au dévouement à la puissance. Des dispositions bien contraires se font admirer en Angleterre. Depuis près de 50 ans, les membres de l'opposition n'ont pas occupé plus de 3 ou 4 années les places du ministère. Cependant, la fidélité de parti n'a point été ébranlée parmi eux. Et dernièrement encore, pendant que j'étais en Angleterre, j'ai vu des hommes de loi refuser des places de 7 à 8 000 livres sterling qui ne tenaient pas même d'une façon immédiate à la politique, seulement parce qu'ils avaient des liens d'opinion avec les amis de Fox. Si quelqu'un refusait chez nous une place de 8 000 louis d'appointement, en vérité sa famille se croirait en droit de le faire interdire juridiquement. L'existence d'un parti ministériel et d'un parti de l'opposition, quoiqu'elle ne puisse pas être prescrite par la loi, est un appui essentiel de la liberté, fondée sur la nature des choses. Dans tout pays où vous verrez une assemblée d'hommes constamment d'accord, soyez sûr qu'il y a despotisme, ou que le despotisme sera le résultat de l'unanimité, s'il n'en est pas la cause. Or, comme le pouvoir et les grâces dont il dispose ont de l'attrait pour les hommes, la liberté ne saurait exister qu'avec cette fidélité de parti qui met, pour ainsi dire, une discipline d'honneur dans les rangs des députés enrôlés sous diverses bannières. Mais si les opinions sont décidées d'avance, comment la vérité et l'éloquence peuvent-elles agir sur l'Assemblée? Comment la majorité peut-elle changer quand les circonstances l'exigeraient? Et à quoi sert-il de discuter si personne ne peut voter d'après sa conviction? Il n'en est point ainsi. Ce qu'on appelle fidélité de parti, c'est de ne point isoler ses intérêts personnels de ceux de ses amis politiques, et de ne pas traiter séparément avec les hommes en pouvoir. Mais il arrive souvent que les circonstances ou les arguments influent sur la masse de l'Assemblée, et que les neutres qui sont en assez grand nombre, c'est-à-dire ceux qui ne jouent pas un rôle actif dans la politique, font changer la majorité. Il est dans la nature du gouvernement anglais que les ministres ne puissent se maintenir sans avoir cette majorité pour eux. Mais néanmoins, M. Pitt, bien qu'il l'eût momentanément perdu à l'époque de la première maladie du roi, put rester en place parce que l'opinion publique, qui lui était favorable, lui permit de casser le Parlement et de recourir à une nouvelle élection. Enfin, l'opinion règne en Angleterre, et c'est là ce qui constitue la liberté d'un État. Les amis jaloux de cette liberté désirent la réforme parlementaire et prétendent qu'on ne peut croire à l'existence d'un gouvernement représentatif tant que les élections seront combinées de manière à mettre le choix d'un grand nombre de députés dans la dépendance du ministère. Le ministère, il est vrai, peut influer sur plusieurs élections, telles que celles des bourgs de Cornouailles ou quelques autres de ce genre, dans lesquelles le droit d'élire s'est conservé, bien que les élections aient en grande partie disparu. Tandis que des villes dont la population est fort augmentée n'ont pas autant de députés que leur population l'exigerait, ou même n'en ont point. Il faut compter au nombre des prérogatives de la couronne le droit de faire entrer par son influence 60 ou 80 membres de la Chambre des communes, sur 650 dont elle est composée. Mais cet abus, et c'en est un, n'a point altéré jusque dans les derniers temps la force et l'indépendance du Parlement anglais. Les évêques et les archevêques, qui siègent dans la Chambre des pairs, votent aussi presque toujours avec le ministère, excepté sur les points qui ont rapport à la religion. Ce n'est point par corruption, mais par convenance, que des prélats nommés par le roi n'attaquent pas d'ordinaire les ministres. Mais tous ces éléments divers, dont la représentation nationale est composée, n'empêchent pas qu'elle ne marche en présence de l'opinion, et que les hommes importants de l'Angleterre, soit par le talent, soit par la fortune, ou par la considération personnelle, ne soient pour la plupart députés. Il y a de grands propriétaires et des pairs qui disposent de quelques nominations à la Chambre des communes, de la même manière que les ministres. Et lorsque ces pairs sont de l'opposition, les députés qu'ils ont fait élire votent aussi dans leur sens. Toutes ces circonstances accidentelles ne changent rien à la nature du gouvernement représentatif. Ce qui importe avant tout, ce sont les débats publics et les belles formes de délibération qui protègent la minorité. Des députés tirés au sort, avec la liberté de la presse, représenteraient plus fidèlement dans un pays l'opinion nationale que les députés les plus régulièrement élus s'ils n'étaient point conduits et éclairés par cette liberté. Il serait à désirer néanmoins que l'on supprimât graduellement les élections devenues illusoires et que d'autre part l'on donnât une représentation plus équitable à la population et à la propriété afin de renouveler un peu l'esprit du Parlement. Que la réaction contre la Révolution de France a rendu sous quelques rapports trop dociles envers le pouvoir exécutif. Mais on craint la force de l'élément populaire dont la troisième branche de la législature est composée, bien qu'il soit modifié par la sagesse et la dignité des membres de la Chambre des communes. Il y a toutefois dans cette Chambre quelques hommes dont les opinions démocratiques sont très prononcées. Non seulement cela doit arriver ainsi partout où les opinions sont libres, mais il est même désirable que l'existence de pareilles opinions rappellent aux grands du pays qu'ils ne peuvent conserver les avantages de leur rang qu'en ménageant les droits et le bonheur de la nation. Toutefois, ce serait bien à tort qu'on se persuaderait sur le continent que le parti de l'opposition est démocratique. Singulier démocrate que le duc de Devonshire, le duc de Bedford, le marquis de Stratford. C'est au contraire la haute aristocratie d'Angleterre qui sert de barrière à l'autorité royale. Il est vrai que l'opposition est plus libérale dans ses principes que les ministres. Il suffit de combattre le pouvoir pour retremper son esprit et son âme. Mais comment pourrait-on craindre un bouleversement révolutionnaire de la part des individus qui possèdent tous les genres de propriétés que l'ordre fait respecter, la fortune, le rang et surtout les lumières? Car les connaissances réelles et profondes donnent aux hommes une consistance égale à celle de la richesse. On ne recherche en aucune manière, dans la Chambre des communes d'Angleterre, le genre d'éloquence qui soulève la multitude. La discussion domine dans cette assemblée. L'esprit d'affaires y préside, et l'on y est même plutôt trop sévère pour les mouvements oratoires. Burke lui-même, dont les écrits politiques sont si fort admirés maintenant, n'était point écouté avec faveur quand il parlait dans la chambre basse, parce qu'il mêlait à ses discours des beautés étrangères à son sujet, et qui appartenaient plutôt à la littérature. Les ministres sont souvent appelés à donner dans la Chambre des communes des explications particulières qui n'entrent point dans les débats. Les députés des différentes villes ou comtés instruisent les membres du gouvernement des abus qui peuvent naître dans l'administration, des réformes et des améliorations dont elle est susceptible. Et ces communications habituelles entre les représentants du peuple et les chefs du pouvoir produisent les plus heureux résultats. Si la majorité du Parlement n'est pas achetée par le ministère, au moins vous nous accorderez, disent ceux qui croient plaider leur propre cause, en parvenant à démontrer la dégradation de l'espèce humaine, au moins vous nous accorderez que les candidats dépensent des sommes énormes pour être élus. On ne saurait nier que dans certaines élections, il n'y ait de la vénalité, malgré des lois sévères. La plus considérable de toutes les dépenses et celle des frais de voyage, dont l'objet est d'amener au lieu de l'élection des votants qui vivent à une grande distance. Il en résulte que s'il n'y a que des personnes très opulentes qui puissent courir le risque de se présenter comme candidats pour de telles places, et que le luxe des élections devient quelquefois une folie en Angleterre, comme tout autre luxe dans d'autres monarchies. Néanmoins, dans quel pays peut-il exister des élections populaires sans qu'on cherche à captiver la faveur du peuple? C'est précisément le grand avantage de cette institution. Il arrive alors, une fois, que les riches ont besoin de la classe qui, d'ordinaire, est dans leur dépendance. Lord Erskine me disait que, dans sa carrière d'avocat et de membre de la Chambre des communes, il n'y avait peut-être pas un habitant de Westminster auquel il n'eût adressé la parole, tant il y a de rapports politiques entre les bourgeois et les hommes du premier rang. Les choix des cours sont presque toujours influencés par les motifs les plus étroits. Le grand jour des élections populaires ne saurait être soutenu que par des individus remarquables de quelque manière. Le mérite finira toujours par triompher dans les pays où le public est appelé à le désigner. Ce qui caractérise particulièrement l'Angleterre, c'est le mélange de l'esprit chevaleresque avec l'enthousiasme de la liberté, les deux plus nobles sentiments dont le cœur humain soit capable. Les circonstances ont amené cet heureux résultat, et l'on doit convenir que des institutions nouvelles ne suffiraient pas pour le produire. Le souvenir du passé est nécessaire pour consacrer les rangs aristocratiques. Car, s'ils étaient tous de la création du pouvoir, ils auraient une partie des inconvénients qu'on a éprouvés en France sous Bonaparte. Mais que faire dans un pays où la noblesse serait ennemie de toute liberté? Le tiers-État ne pourrait former aucune union avec elle. et comme il est le plus fort, il la menacerait sans cesse, jusqu'à ce qu'elle se fût soumise au progrès de la raison. L'aristocratie anglaise est plus mélangée que celle de France aux yeux d'un généalogiste. Mais la nation anglaise semble, pour ainsi dire, un corps entier de gentilshommes. Vous voyez dans chaque citoyen anglais ce qu'il peut être un jour, puisque aucun rang n'est inaccessible au talent, et que ces rangs ont toujours conservé leur éclat antique. Il est vrai que ce qui rend noble avant tout au regard d'une âme élevée, c'est d'être libre. Un noble ou un gentilhomme anglais, et ce mot de gentilhomme signifie un propriétaire indépendant, exerce dans sa province un emploi utile, auquel il n'est jamais attaché d'appointement. Juge de paix, shérif, ou gouverneur de la contrée qui environne ses possessions. Il influe sur les élections d'une manière convenable et qui ajoute à son crédit sur l'esprit du peuple. Il remplit, comme pair ou comme député, une fonction politique et son importance est réelle. Ce n'est pas l'oisive aristocratie d'un noble français qui n'était plus rien dans l'État dès que le roi lui refusait sa faveur. C'est une distinction fondée sur tous les intérêts de la nation. Et l'on ne peut s'empêcher d'être étonné que les gentilshommes français préférassent leur existence de courtisans sur la route de Versailles à Paris à cette stabilité majestueuse d'un pair anglais dans sa terre, entouré d'hommes auxquels il peut faire mille sortes de biens, mais sur lesquels il ne saurait exercer aucun pouvoir arbitraire. L'autorité de la loi domine sur toutes les puissances de l'État en Angleterre, comme la destinée de l'ancienne mythologie sur l'autorité des dieux mêmes. Au miracle politique du respect pour les droits de chacun, fondé sur le sentiment de la justice, il faut ajouter la réunion habile autant qu'heureuse de l'égalité devant la loi, avec les avantages attachés à la séparation des rangs. Chacun y a besoin des autres pour ses jouissances, et cependant, chacun y est indépendant de tous par ses droits. Ce tiers-État, qui a si prodigieusement grandi en France et dans le reste de l'Europe, ce tiers-État, dont l'accroissement oblige à des changements successifs dans toutes les vieilles institutions, est réuni à la noblesse en Angleterre, parce que la noblesse elle-même est identifiée avec la nation. Un grand nombre de pairs doivent originairement leur dignité à la jurisprudence, quelques-uns au commerce, d'autres à la carrière des armes, d'autres à celle de l'éloquence politique. Il n'y a pas une vertu, pas un talent qui ne soit à sa place, ou qui ne doive se flatter d'y arriver. Et tout contribue dans l'édifice social à la gloire de cette constitution, qui est aussi chère au duc de Norfolk qu'au dernier portefaix de l'Angleterre, parce qu'elle protège aussi équitablement l'un que l'autre. The Icon still happy, and the chief, among the nation, seeing zone art free, my native nook of earth. The clime is rude, replete with vapors, and disposes much all earth to sorrow, and none more than mine. Yet, being free, I love thee. Ces vers sont d'un poète d'un admirable talent, Cooper, mais dont la sensibilité même avait altéré le bonheur. Il se mourait du mal de la vie, et quand tout le faisait souffrir, amour, amitié, philosophie, une patrie libre réveillait encore dans son âme un enthousiasme que rien ne pouvait éteindre. Tous les hommes sont plus ou moins attachés à leur pays. Les souvenirs de l'enfance, les habitudes de la jeunesse forment cet inexprimable amour de la terre natale qu'il faut reconnaître pour une vertu, car tous les sentiments vrais en sont la source. Mais dans un grand État, la liberté et le bonheur que donne cette liberté peuvent seuls inspirer un véritable patriotisme. Aussi rien n'est comparable à l'esprit public de l'Angleterre. On accuse les Anglais d'égoïsme, et il est vrai que leur genre de vie est si bien réglé qu'ils se renferment généralement dans le cercle de leurs affections domestiques et de leurs habitudes. Mais quel est le sacrifice qui leur coûte quand il s'agit de leur pays? Et chez quel peuple au monde les services rendus sont-ils sentis et récompensés avec plus d'enthousiasme? Quand on entre dans l'église de Westminster, toutes ces tombes consacrées aux hommes qui se sont illustrés depuis plusieurs siècles semblent reproduire le spectacle de la grandeur de l'Angleterre parmi les morts. Les penseurs et les rois reposent sous la même voûte. Là, leurs querelles sont apaisées, ainsi que le dit un poète fameux de l'Angleterre, Walter Scott. Genius and taste and talent gone, forever tombed heneath the stone, where, taming zone the human pride, the mighty chief sleep side by side, drop upon fox's grave the tear, twill trickle to his rival's ear. Vous voyez les tombeaux de Pitt et de Fox à côté l'un de l'autre, et les mêmes larmes les arrosent, car ils méritent tous les deux le regret profond que les âmes généreuses doivent accorder à cette noble élite de l'espèce humaine, qui nous sert d'appui dans la confiance en l'immortalité de l'âme. Qu'on se rappelle le convoi de Nelson, lorsque près d'un million d'hommes répandus dans Londres et dans les environs suivaient en silence son cercueil. La multitude se taisait, la multitude était respectueuse dans l'expression de sa douleur, comme on pourrait l'attendre de la société la plus raffinée. Nelson avait mis ses paroles à l'ordre sur son vaisseau le jour de Trafalgar. L'Angleterre attend que chacun de nous fera son devoir. Il l'avait accompli ce devoir, et mourant sur son bord, les obsèques honorables que sa patrie lui accorderait s'offraient à sa pensée comme le commencement d'une nouvelle vie. Et maintenant encore, ne nous taisons pas sur Lord Wellington, bien que nous puissions justement en France souffrir en rappelant sa gloire. Avec quel transport n'a-t-il pas été reçu par les représentants de la nation, par les pairs et par les communes? Aucune cérémonie ne fit les frais de ces hommages rendus à un homme vivant, mais les transports du peuple anglais échappaient de toutes parts. Les acclamations de la foule retentissaient dans la salle du Parlement avant qu'il y entrât. Lorsqu'il parut, tous les députés se levèrent par un mouvement spontané, sans qu'aucune étiquette le leur commandât. L'émotion inspirait à ces hommes si fiers les hommages qu'on dicte ailleurs. Rien n'était plus simple que l'accueil qu'on fit à Lord Wellington. Il n'y avait ni garde, ni pompe militaire pour faire honneur au plus grand général d'un siècle où Bonaparte a vécu. Mais la voix du peuple célébrait cette journée, et rien de semblable n'a pu se voir en aucun autre pays de la terre. Ah, quelle enivrante jouissance que celle de la popularité! Je sais tout ce qu'on peut dire sur l'inconstance et le caprice même des faveurs populaires. Mais ces reproches s'appliquent plutôt aux républiques anciennes, où les formes démocratiques des gouvernements amenaient toutes les vicissitudes les plus rapides. Dans un pays gouverné comme l'Angleterre, et de plus éclairé par le flambeau sans lequel tout est ténèbres, la liberté de la presse, les choses et les hommes sont jugés avec beaucoup d'équité. La vérité est mise sous les yeux de tous, tandis que les diverses contraintes dont on fait usage ailleurs sont nécessairement la cause d'une grande incertitude dans les jugements. Un libelle qui se glisse à travers le silence obligé de la presse peut altérer l'opinion sur qui que ce soit, car les louanges ou les censures ordonnées par le gouvernement sont toujours suspectes. Rien ne s'établit nettement et solidement dans la tête des hommes que par une discussion sans entrave. Prétendez-vous, me dira-t-on, qu'il n'y ait point de mobilité dans le jugement du peuple anglais, et qu'il n'encense pas aujourd'hui ce que peut-être il déchirera demain? Sans doute, les chefs du gouvernement doivent être exposés à perdre la faveur du peuple, s'ils ne réussissent pas dans la conduite des affaires publiques. Il faut que les dépositaires de l'autorité soient heureux. C'est une des conditions des avantages qu'on leur accorde. D'ailleurs, comme le pouvoir déprave presque toujours ceux qui le possèdent, il est fort à désirer que dans un pays libre, les mêmes hommes ne restent pas trop longtemps en place. Et l'on a raison de changer de ministre, ne fût-ce que pour en changer. Mais la réputation acquise est très durable en Angleterre, et l'opinion publique peut y être considérée comme la conscience de l'État. Si quelque chose peut séduire l'équité du peuple anglais, c'est le malheur. Un individu persécuté par une force quelconque pourrait inspirer un intérêt non mérité et par conséquent passager. Mais cette noble erreur tient, d'une part, à la générosité du caractère anglais et de l'autre, à ce sentiment de liberté qui fait éprouver à tous le besoin de se défendre mutuellement contre l'oppression. Car c'est sous ce rapport surtout qu'en politique, il faut traiter son prochain comme soi-même. Les Lumières et l'énergie de l'esprit public sont une réponse plus que suffisante aux arguments des personnes qui prétendent que l'armée envahirait la liberté de l'Angleterre, si l'Angleterre était une puissance continentale. Sans doute, c'est un avantage pour les Anglais que leur force consiste plutôt dans la marine que dans les troupes de terre. Il faut plus de connaissances pour être un capitaine de vaisseau qu'un colonel, et toutes les habitudes qu'on prend sur mer ne portent point à vouloir se mêler des affaires intérieures de son pays. Mais quand la nature, devenue prodigue, ferait naître 10 lords Wellington, mais quand le monde verrait encore 10 batailles de Waterloo, il ne viendrait pas dans la tête de ceux qui donnent si facilement leur vie pour leur pays de tourner leurs forces contre lui. Ou tout au moins, ils rencontreraient un invincible obstacle chez des hommes aussi braves qu'eux et plus éclairés, qui détestent l'esprit militaire, quoiqu'ils sachent admirer et pratiquer les vertus guerrières. Cette sorte de préjugé, qui persuadait à la noblesse de France qu'elle ne pouvait servir son pays que dans la carrière des armes, n'existe nullement en Angleterre. Un grand nombre de fils de pairs sont avocats. Le barreau participe au respect qu'on a pour la loi, et dans toutes les carrières, les occupations civiles sont considérées. Dans un tel pays, on n'a pas dû craindre jusqu'à ce jour l'invasion de la puissance militaire. Il n'y a que les peuples ignorants qui aient une aveugle admiration pour le sabre. C'est une superbe chose que la bravoure, quand on expose une vie chère à sa famille, une tête remplie de vertus et de lumière, et qu'un citoyen se fait soldat pour maintenir ses droits de citoyen. Mais quand des hommes se battent seulement parce qu'ils ne veulent se donner la peine d'occuper leur esprit et leur temps par aucun travail, ils ne doivent pas être longtemps admirés chez une nation où le travail et la pensée tiennent le premier rang. Les satellites de Cromwell renversèrent des pouvoirs civils qui n'avaient encore ni force ni dignité. Mais depuis l'existence de la Constitution et de l'esprit public qui en est l'âme, les princes ou les généraux ne feraient naître dans toute la nation qu'un sentiment de pitié pour leur folie, s'ils rêvaient un jour l'asservissement de leur pays.